Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahi la yumiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères en islam, mes chères sœurs qui nous écoutent, nous avons reçu de la part d'Allah Azza wa Jal énormément de bienfaits en tant que ummati, en tant que croyants et croyantes appartenant à la communauté de notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a accordés à cette umma, le fait que le mariage, le nikah, fait partie d'une sunnah de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui perpétue la sunnah, la tradition de tous les prophètes, que la paix d'Allah alayhi salatu wassalam. Et donc ce soir, alhamdulillah, nous remercions notre Seigneur qui nous donne la possibilité de vivre ce grand moment, car dans quelques instants, un jeune croyant en la personne de Mohamed Omarji, qui nous vient de très loin, qui nous vient du tampon, ben Mohamed Omarji va dire oui, et nakahtuha wa qabiltuha, et par ces termes il va accepter de partager sa vie avec mademoiselle Akun Nasrin. Mes chers frères et sœurs en islam, le nikah est un des moments les plus forts, les plus importants dans la vie d'un homme. Il faut le vivre de façon intense. Il faut apprécier chaque instant. Le fait que tu sois assis là, tu attends qu'on fasse ton nikah, enjoy. Il faut profiter de ce moment. Si on demande à plein de personnes comment s'est passé votre nikah, ils vont dire qu'on était tellement stressé, tellement angoissé, je n'ai aucun souvenir. Il faut profiter. En général, on se marie une fois, Inch'Allah. Et c'est pour la vie. Donc, c'est un moment, il faut vraiment apprécier. C'est que du bonheur, subhanallah. Un des moments les plus forts, les plus importants de la vie d'un homme. Donc, on a dit, il faut le vivre de façon intense. Il faut apprécier chaque instant. Et surtout, quand Allah t'accorde un bienfait, il faut être reconnaissant. Faire preuve de shukr. Et la plus grande reconnaissance envers Allah Azza wa Jal pour ce bienfait qu'il est en train de t'accorder, de te donner une personne qui va partager ta vie. La meilleure des reconnaissances, c'est de suivre les ordres d'Allah Azza wa Jal, de s'éloigner de ce qu'Allah Rabbul Izza a interdit. Et cela dès maintenant, à travers chaque étape du mariage, là on est dans la masjid, mashallah. Mais à travers chaque étape du nikah, depuis le début jusqu'à l'aboutissement, on fait en sorte de rester dans le ta'a, dans le droit chemin, et ce serait là la grande reconnaissance pour ce grand bienfait. Cher Mohamed, sache que le mariage, c'est que du bonheur, mais c'est également un passage vers une autre étape de la vie, où on a besoin de s'adapter, parce que le rythme de vie, quand on est un jeune célibataire, même si on n'est pas très jeune, on a 20, 22, 23 ans. Quand on passe un mode de vie à deux, il y a des réglages à faire, il y a des adaptations, c'est un autre rythme de vie. Le mariage, c'est la concrétisation des sentiments, on est d'accord là-dessus. C'est la concrétisation de l'amour et de la muhabba, là-dessus aussi on est d'accord. C'est aussi l'aboutissement d'un projet entre deux personnes, mais également entre deux familles, qui parfois se préparent depuis des mois et des mois. Et lorsque le livre de Nikah est signé et qu'on fait le walima, on peut dire que, mashallah, c'est un objectif qui est atteint. Mais l'objectif est atteint, ça veut dire que maintenant, c'est maintenant que l'histoire commence. Et les deux acteurs principaux de cette histoire, ce sera Mohamed et Nasrin. Donc c'est à vous de faire en sorte que cette histoire que vous commencez à écrire, l'histoire commence avec ta signature. La première chose que tu vas, la première empreinte de cette nouvelle vie, c'est lorsque tu vas signer l'acte de mariage, et à partir de cet instant, chaque lettre que tu vas écrire, fais en sorte que ce soit les plus belles lettres, que ce soit toujours mémorable, que ce soit rempli de sincérité, de bonheur et d'amour. Mes chers frères, en islam, le mariage, c'est également un projet spirituel extraordinaire. C'est une sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam, comme on l'a dit, mais de tous les prophètes. Et ce qu'il faut retenir, c'est lorsqu'une action est sunna, lorsqu'une action est sunna, c'est que cette action, elle est aimée par Allah. Et c'est pour ça qu'Allah a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses autres prophètes de le mettre en pratique. Et quand une action est aimée par Allah, et quand une action est aimée par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'à travers cette action, il y a un bien pour l'homme sur trois plans. Sur le plan spirituel, sur le plan physique et également sur le plan psychologique. On va essayer de voir ça. Il faut savoir également que le mariage, c'est l'aboutissement de ce qu'on appelle la fitra, de l'innéité. Allah, c'est le créateur de la machine humaine. Allah Azza wa Jal connaît les besoins de chaque homme et chaque femme, et ce nikah répond aux besoins d'une personne qui veut être épanouie, qui veut avancer dans la vie. Aucun bonheur ne peut se concrétiser sans les liens du mariage. D'ailleurs, c'est un exemple que beaucoup de savants reprennent. Adam alayhi salam était dans le paradis. Le paradis. Tous les bienfaits qu'on peut imaginer. Et Adam alayhi salam, lorsqu'il était dans le paradis, il était dans le Jannah à un moment sans Hawa alayhi salam. C'est ensuite qu'Allah Rabbul Izzah a créé Hawa. En commentaire, les savants disent, c'est une preuve que même si nous sommes entourés de tous les bienfaits, le véritable bonheur et l'apaisement intérieur, on ne peut le trouver qu'à partir du moment où on partage sa vie dans le halal avec une autre personne. C'est là que l'homme trouve la sakina, c'est là qu'on a la stabilité spirituelle, l'équilibre psychologique et également tout ce qui va dans le sens de la création de la machine humaine. D'où le verset « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ » Et parmi ces signes, c'est-à-dire parmi les signes d'Allah, preuve que la création d'Allah elle est parfaite. Il a créé de vous, pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Et le vrai terme, c'est pas tranquillité. La sakina, ça dépasse la simple traduction de tranquillité. C'est vraiment une quiétude, un apaisement intérieur. Et les savants disent que ça, on ne peut l'obtenir que par les liens du mariage. Donc, pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. C'est-à-dire que la muhabba, la mawadda, la rahma, cet attachement qu'on a au sein du couple, ben c'est Allah qui donne. Et il faut demander à Allah Azza wa Jal d'accorder, de nous accorder à tous, à toi et à tous les couples, encore plus de mawadda et de rahma. Également, le mariage est source de bénédiction, de baraka. Lorsque dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous rappelle « وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ » والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. S'ils sont pauvres, s'il s'agit de personnes qui n'ont pas les moyens, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. C'est-à-dire que lorsqu'Allah décide d'accorder la baraka à des personnes, on n'a plus à tirer sa calculatrice et essayer de comprendre comment est-ce que on va boucler les fins du mois. Le mariage apporte la bénédiction dans la vie du couple. Mais le mariage est également un engagement moral devant Allah. Quand on va faire le khutbah du nikah, il y aura des versets du Coran, il y aura des ahadith, des textes prophétiques. Et c'est devant des témoins et devant la parole d'Allah que tu vas prendre cette fille dans ton mariage. Et à travers cette acceptation, il y a la promesse de s'unir par les liens du nikah, d'éprouver de la compassion, de la muhabba pour la personne qu'Allah a mis sur ton chemin. Tu es né, donc en 1991, tu es né, tu ne savais même pas. Cette personne était déjà écrite dans ton taqdir. Et Allah Azza wa Jal a organisé la vie, a décrété toute situation de la vie pour que aujourd'hui, tu te retrouves dans cet endroit et que tu vas prendre cette femme, cette jeune fille dans ton mariage. Ça fait partie de ta vie. C'est ton taqdir. Et remercie Allah Azza wa Jal pour ce destin qu'il t'a accordé. Et l'objectif, c'est de vivre avec elle de ce dunya, mais qu'elle soit avec toi également dans le akhira, dans l'au-delà. Et c'est ça notre objectif. Donc, cher Mohamed, c'est une nouvelle vie que vous allez partager sous un nouveau toit, avec un nouveau mode de vie, comme on a dit, passant de la vie de célibataire à celle de couple, en cohabitant, en apprenant à vous connaître réellement. C'est lorsqu'on vit ensemble qu'on connaît réellement le conjoint. Toutes les étapes avant, normalement il ne doit pas y avoir d'étapes avant bien sûr, mais les échanges, les mails, les WhatsApp, peu importe, en fait ça reste du commedia dell'arte, comme ils disent en italien. C'est-à-dire que c'est du paraître. On essaie de donner la meilleure image de nous-mêmes. Mais ce n'est pas nous. C'est une comédie. Oh, tonton Ismaël qui sourit. C'est une comédie lorsqu'on essaie de séduire une jeune fille. C'est-à-dire pour aboutir à Nika, lorsqu'on essaie de... pour que la demande soit acceptée. Je contrôle mes termes, d'accord ? Ben, on essaie. Parfois, on essaie de se dépasser, d'avoir le meilleur des comportements, mais ce n'est pas nous. C'est pas le vrai Mohammed, le vrai Ibrahim. On a tous joué cette comédie. Nous, on la connaît depuis très longtemps. D'accord? Mais c'est lorsque la vie commune commence. Passer le voyage de noces, passer l'effet paillette et ainsi de suite. Lorsque la vraie vie commence, ben c'est là qu'on découvre l'identité de chaque personne. Et là, il y a un travail à faire sur soi-même. Il y a un travail à faire sur soi-même parce que, on a utilisé un verbe tout à l'heure qui fait un peu peur. Cohabiter. C'est-à-dire habiter ensemble. Ce n'est pas quelque chose de simple. Même si on est amoureux d'une personne, on est amoureux de loin, ou on est amoureux 15 minutes par jour. Là, je suis d'accord. Mais lorsqu'on dit depuis Fajr jusqu'à Isha, toute l'année, toute la vie, à un moment donné, ça peut être angoissant. Dit que tout le temps la personne sera là, oui, mais c'est ça le mariage. Et donc, il faut trouver les bons réglages pour que ce soit, que chaque seconde, ce soit une seconde de bonheur. Parce que je jure par Allah, le créateur des cieux et de la terre, si nous respectons les recommandations prophétiques concernant l'éthique de l'époux et de l'épouse, chaque seconde peut être un moment de bénédiction et un moment de bonheur. Également, c'est une promesse, Mohammed et Nasrin, que vous vous faites, que vous allez vous respecter mutuellement. Le respect, c'est essentiel. Vous allez vous aimer, vous soutenir, partager chaque minute de votre nouvelle vie qui commence. Et dans ce partage, vous allez être juste. Vous allez être sincère, attentionné, suivant les recommandations d'Allah et de son prophète concernant la façon de vivre dans un couple. Et un des plus beaux versets, c'est celui de la sourate Al-Baqarah, le verset 187, que tu as choisi. C'est toi qui as choisi. Et ton épouse. C'est comme ça maintenant. Les jeunes, ils demandent, ils veulent un nikah sur ce sujet. Donc, alhamdoulilah, et je te remercie parce qu'on a appris plein de choses. Et on a toujours besoin d'apprendre et d'avancer la définition véritable de l'amour qui transite par une magnifique métaphore de le Coran. Quel est le verset que tu as choisi? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. La métaphore utilisée de ce verset pour montrer la proximité qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est le terme vêtement. Et nous allons voir 9 points. Ça ne va pas être très long. C'est juste des ru'us al-aqlam, quelques idées. C'est parfois des tafsirs de grands mufassirin, Ibn Kathir et Tabari, principalement, ou des contemporains. 9 opinions concernant la puissance de la métaphore du Coran lorsque l'homme est décrit comme étant un vêtement pour sa femme et la femme comme étant un vêtement pour l'homme. Vous savez, les métaphores utilisées, les paraboles du Coran et de la Sunna, ce sont des termes d'une précision. Aucun homme, aucune créature ne peut être plus précis que le Créateur dans la façon de décrire et de résumer les choses. Alors, premier tafsir, il est d'Ibn Kathir, rahimahullah, et ces 9 points, 10 minutes, amplement suffisant. Je connais de toute façon. Ces 9 points, c'est une source d'inspiration pour toi, Mohammed, et pour ton épouse, ta future épouse, Nasrin, mais également pour chaque personne présente. Quand on a affaire à un couple, même si c'est un, mashallah, Hadith Mal qui sourit encore, même si on est bientôt noce de, enfin, comment on peut appeler ça, c'est, hein, de diamant ou de, d'accord? Mais, subhanallah, on a toujours à apprendre. Parce que ce verset, franchement, il est hyper riche. Et on comprend réellement, il y a un terme qui va revenir. À travers ce verset, on voit qu'au sein du couple, il doit y avoir une relation fusionnelle. Une relation fusionnelle. Un muhabbat de tout instant entre l'homme et la femme. Et c'est l'occasion pour les anciens couples, ou pour ceux qui sont dans un projet de mariage, soit de se remettre en question, ou alors de garder à l'esprit quelle est la véritable définition de l'amour en islam. Vous savez, les personnes qui ne partagent pas nos croyances, faut utiliser des termes comme ça de nos jours. Ben, il y a des fois, ils se disent que, à travers les portes de la mosquée, c'est sûr, là où ils parlent du djihad, il faut aller, il faut tuer, il faut mettre des bombes. Ou là, il doit avoir des discours extrêmes. Là, si une personne passe à l'extérieur, il voit un grand barbu. Lui, en train de parler, il dit ça, il est en train de dire, il faut aller en Syrie, il faut... Mais il n'imagine pas une seconde qu'on est capable, subhanallah, et le temps nous fait défaut. Mais parler de l'amour à travers un verset du Coran, ça pourrait prendre des heures. La place de l'amour dans les versets du Coran et dans les hadiths nabawi, on ne pourrait pas le retrouver dans d'autres textes et dans d'autres révélations. C'est toute la richesse qu'il y a dans notre religion, mais malheureusement, nous sommes les plus grands des ignorants. Nous sommes focalisés sur certains points liés à la pratique, mais cette notion d'échange, de muhabba, d'amour entre l'homme et la femme, d'amitié entre les peuples, entre les personnes, de respect mutuel, malheureusement, ce sont des notions qu'on a perdues. Et très souvent, on entend parler, et malheureusement, nous sommes parfois le centre de beaucoup de personnes qui se plaignent, et quand ils se plaignent de personnes, de comportements, souvent ils citent des noms, ça s'appelle des ribates, mais Allah nous pardonne, parce qu'il y a des gens qui parfois ont besoin de se confier, et de dire que telle personne m'a fait ça, pourtant son bab est grand comme moi, on dit ça, pourtant le madame il couvre, elle comme ça, comment est-ce possible que quelqu'un de religieux, premier saf, il agit comme ça avec moi, il m'a trompé dans mon commerce, il m'a pas payé, il m'a pas réglé mes factures, il m'a volé. Comment est-ce qu'on peut être religieux entre guillemets? Et Allah seul sait qui est religieux. Le cœur doit être pur. L'adoration d'Allah, oui, mais le respect des gens, ça c'est la base de l'islam. Quand le prophète arrive à Madina, il enseigne aux gens prier la nuit lorsque les gens dorment. Mais il n'a pas dit prier la nuit seulement. Il a dit donner à manger aux gens. Qui c'est qui donne à manger aux gens? Et quand on dit « donner it'am ou ta'am », c'est pas que tu donnes à manger aux musulmans, à toute créature d'Allah. Et ifsha ou salam, fais salam à tout le monde. Un cœur ouvert, des sentiments positifs, aucune haine, aucune jalousie, rien de négatif dans le cœur d'un croyant à l'égard de son prochain. C'est cette beauté qu'on a besoin de mettre en avant. C'est ça notre religion. Elle est basée là-dessus. C'est pas le moment de développer la sirah, mais tout y est, subhanallah. Donc, ces 9 points. Premier point de Ibn Kathir, rahimahullah, lorsqu'on parle de vêtements, selon Ibn Kathir, il dit que, faqad fassar, on va dire directement en français, il dit que, l'homme et la femme se protègent mutuellement min al-fujuri, contre les péchés. Il dit, à travers l'union, l'homme et la femme se soutiennent mutuellement dans un projet spirituel. Nous sommes des êtres humains, nous avons des moments de force spirituelle. Il y a des moments où on fléchit un petit peu, où on a un peu des accès de faiblesse. Ce qui fait de nous des humains. Et comme on dit dans différents programmes, si on n'avait pas ces faiblesses, on s'appellerait pas Ibrahim ou Mohammed. On s'appellerait Jibril et Mikaïl. Nous serions des anges. Mais nous ne sommes pas des anges. Mais l'avantage du mariage, et là après il faut revenir avec le choix de l'épouse vertueuse. L'avantage du mariage, c'est que lorsqu'un des deux, l'un des conjoints, il commence à faiblir un peu dans la pratique de la religion, l'autre doit être là pour l'épauler. Pour le ramener. Et une épouse qui te rappelle, mon très cher, c'est l'heure de Fajr. Il faudrait que tu ailles à la prière de Fajr. C'est beaucoup, ça touche le cœur. Et c'est beaucoup plus appréciable que quelqu'un comme moi qui vient, qui te dit, il va dire, de quoi il se mêle? Au nom de quoi? Est-ce qu'on a une relation, tout pour que il me donne des conseils sur ma vie? Mais lorsque le message vient de l'épouse, ça vient de l'intérieur du foyer et on est prêt à écouter. La meilleure des da'wah, c'est celle que tu vas faire à l'attention de ton épouse et celle que ton épouse va faire pour toi. Donc voilà, premier tafsir de Ibn Kathir, s'encourager mutuellement dans les bonnes actions et se soutenir. Un exemple concret pour la prière, si la femme à un moment donné voit que l'homme néglige un peu, c'est un exemple général, néglige un peu la prière en jamaat à la masjid, elle doit être présente et rappeler à son mari qu'il est important de prier à la masjid. Ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est le tafsir d'Imam al-Tabari, rahimahullah. Selon lui, lorsqu'on parle de vêtements, c'est sakina. L'homme trouve la tranquillité, c'est ce qu'on avait dit en introduction, auprès de son épouse, et l'épouse trouve la tranquillité auprès de son mari. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, comme on l'avait lu tout à l'heure, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Dans le mariage, on doit trouver la quiétude, la tranquillité. On revient encore vers la sirah lorsque le prophète reçoit la première révélation et qu'il doit affronter la vision de l'ange Jibril, qui est une vision qu'il avait effrayée. On connaît l'histoire, le prophète, il quitte cette grotte, il retourne à Mecca, il a besoin de se confier, il a besoin de demander à une personne « qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Il va pas voir les chefs mécois. Il va pas voir son oncle Abu Talib qui était pourtant comme un père pour lui. Il va voir son épouse Khadija radiallahu anha. Avec le fameux terme Zammilouni, et il trouve le réconfort auprès de son épouse qui, elle, va trouver les mots adaptés. Mon mari, jamais Allah n'enverrait quelque chose de mauvais sur toi. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'honnête, tu es quelqu'un de véridique, tu donnes l'aumône, tu as du respect pour tout le monde. Voyez l'encouragement mutuel, le soutien, la quiétude. Et en commentaire, les commentateurs du Coran et des hadiths, les contemporains, ils disent que le rôle de psychologue de la femme, mais également de psychologue du mari. Il est essentiel qu'il y ait des échanges réguliers à chaque repas, principalement le soir, pour faire le bilan de la journée, où le mari va exposer à son épouse le bilan de la journée, et s'il y a eu des moments difficiles, et s'il y a une solution à apporter, avant de consulter un expert ou un avocat ou un collègue ou autre chose, c'est l'épouse, la confidente, et c'est de l'épouse que vient la meilleure des mashwara, la meilleure des concertations, et c'était là la pratique de notre Habib, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a consulté Khadija radhiyallahu anha, également lors de le sulh de Hudaybiyah, lorsqu'il a eu un malentendu avec les sahaba, là aussi il a consulté son épouse pour trouver la solution adaptée. Troisième avis, quand on parle de vêtements, là c'est un peu plus technique, le vêtement ne fait pas partie de toi. C'est quelque chose qu'on greffe sur toi à un moment donné. D'où la métaphore du mariage avec le vêtement. Mais lorsque le vêtement est posé sur ton corps, il devient la chose la plus proche de toi. Et de la même façon, on voit la proximité entre l'homme et la femme. Ce sont des personnes qui ne se sont pas connues avant. Ils n'ont pas eu une vie commune avant ça. À un moment donné, ils se rencontrent par la décision d'Allah et il y aura une proximité. Et de cette proximité doit naître le terme qu'on a dit, une relation fusionnelle entre les conjoints. Et ça, c'est extrêmement important. Et la métaphore, elle va de ce sens. Et les savants expliquent que le résultat, là, on va au bout de l'histoire. S'il y a vraiment la muhabba, comme on va essayer de le décrire, et qu'une relation fusionnelle s'installe entre l'homme et la femme, l'homme doit être capable d'anticiper ce que sa femme va dire ou ce qu'elle va faire. Quand il y a vraiment muhabba, quand l'homme connaît sa femme sur le bout des doigts, et la femme doit savoir exactement comment son mari pense dans chaque situation. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui échangent tout, qui partagent tout, et ils se connaissent parfaitement. Il peut exactement dire qu'est-ce que mon mari ou ma femme pourrait dire dans telle situation. Ça, c'est un... Ce degré fusionnel, c'est vraiment, on va dire, le paroxysme, c'est le summum. Et lorsqu'il y a un muhabba qui naît et qui gravite autour d'une connaissance mutuelle de soi de cette façon, c'est vraiment qu'il y a un muhabba sincère qui est installé dans le cœur. Et là, on dépasse la Saint-Valentin, on dépasse les bouquets de roses ou les fleurs, tout ça c'est du cinéma. Commedia dell'arte, c'est pareil. La vraie muhabba, c'est al-mawadda et al-rahma, décrit dans le Coran. La vraie muhabba, c'est hunna libasul lakum, vêtements pour vous. La vraie muhabba, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne quitte pas sa maison. Jamais ne quitte pas sa maison sans embrasser sa femme. Qui c'est qui le fait? Ce sont des sunnats à mettre en pratique aussi. D'accord? Et à chaque fois qu'il rentrait, il faisait le miswak avant, afin que lorsqu'il va parler à son épouse, il n'y ait aucune mauvaise odeur. Et, subhanallah, la laine du prophète sallallahu alayhi, c'est la meilleure du monde. Mais il le faisait, c'est ce qu'on appelle du respect pour son prochain. Et quand le prophète sallallahu mangeait, il mettait toujours une bouchée de nourriture, donc dans la bouche de son épouse. Ce sont des signes, ce sont des manifestations d'une réelle, un réel muhabba, un réel amour pour son prochain. Quatrième avis. On va résumer à 5 s'il le faut. Le vêtement qui recouvre le corps, ça donne une personnalité à l'individu qui le porte et relève sa beauté naturelle. Avec un vêtement, ta beauté naturelle, elle est mise en avant. En commentaire, les savants disent que de la même façon, le mari doit valoriser son épouse. Un homme intelligent, c'est un homme qui est capable de cerner les qualités de son épouse. Pas uniquement physique, c'est les qualités morales, son intelligence, quelles sont les qualités, les stéphades qu'elle a, et mettre ça en avant. Et à chaque fois que sa femme va parler, le mari doit faire des éloges. Et à chaque fois que l'épouse prend une décision, le mari doit l'encourager, doit appuyer sa décision. Ça, c'est ce qu'on appelle valoriser les paroles et chaque manifestation de la personne qui est en face de toi, bien sûr, et vice-versa. La femme doit également valoriser le comportement, les paroles et l'agissement de son mari, chaque fait, geste de son mari. Et les savants disent que cet amour qu'on développe en montrant à son prochain qu'on le respecte et qu'on donne de l'importance à chaque manifestation de sa personne, c'est un amour sincère où les conjoints vont ressentir réellement le respect mutuel et le perpétuer. C'est de cette façon que les cœurs sont convaincus et qu'il y ait vraiment muhabba. Cinquième point, on va un peu plus vite si tu es d'accord. Le vêtement, libasul lakum, expose la personnalité de l'autre sous le meilleur jour possible. Il y a des fois où on met un vêtement qui est très beau, même si la personne n'était pas trop bien levée ce matin, mais la couleur et le tissu, la coupe, d'accord, ça, comme il dit, il relève la personne. Et cachant parfois même cachant, les traits que la personne veut cacher. Et des fois, je sais pas si on est un signe de beauté ou autre chose qu'on veut pas que les gens voient, on met un vêtement avec un col un peu haut, et du coup, ça cache, il y a quelque chose qu'on souhaite cacher. Mais là, tu comprends la métaphore. L'homme doit faire l'impasse sur tout ce qui est négatif dans les traits de caractère de son épouse. Tout ce qui peut être déplaisant, et vice versa, l'épouse pour son mari, pour mettre en avant uniquement ce qui est positif. Et il y a un hadith qui serait vraiment la solution à tous les problèmes de couple, mais également une solution dans les relations humaines. Le prophète dit qu'une personne ne doit pas détester sa femme s'il constate un défaut. Dites-moi, y a-t-il une femme parfaite ? Il n'y a pas. Il n'y a pas un être humain parfait. Il a dit que peut-être qu'il y a quelque chose qui le déplaît dans son épouse, mais qu'il regarde plutôt toutes les qualités qu'elle a. Et ça, ce serait la solution. Ne vois pas le point noir. Vois tout ce qu'elle t'apporte. Il y avait une histoire où un homme était parti se plaindre de son épouse auprès de Amir al-Mu'minin, Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et on connaît le charisme de Umar ibn al-Khattab. D'accord? Et lorsqu'il va voir Umar ibn al-Khattab, Umar tarde avant de venir, et il entend l'épouse de Umar en train de le réprimander. Mais grave. Et lorsque Umar arrive, ce jeune homme, ce monsieur dit, « Ô Amir al-Mu'minin, j'étais venu me plaindre auprès de toi, de mon épouse qui parfois me parle un petit peu, me manque de respect, mais ce que je viens d'entendre, c'est beaucoup plus costaud que ce que moi je vis à la maison. Du coup, je suis désemparé, je ne sais pas est-ce que je me plains ou alors du coup mon cas il est soft, comme on dit, le langage des jeunes. » Umar al-Khattab, radiallahu anhu, répond une réponse magnifique de calife. Il dit que certes, peut-être qu'elle a des paroles déplaisantes, mais c'est elle qui s'occupe de moi. C'est elle qui s'occupe des enfants de la maison. C'est elle qui prépare le repas. Quand mes vêtements, on a besoin de laver les vêtements. Ça ne veut pas dire qu'il y avait qu'elle qui faisait. Les sahabas participaient aux tâches de la maison. Mais c'est essentiellement elle qui prépare tout ça. Ne dois-je pas avoir un peu de reconnaissance pour tout ce qu'elle fait et passer sur certains erreurs de comportement? Belle leçon. Mettre en pratique la religion, c'est ça aussi. C'est pas uniquement les prières. Tout ça, ça fait partie de la beauté. Parce que l'islam est une belle religion. C'est une religion qui lie l'homme à son Seigneur, mais qui permet aux hommes de créer un lien, et le plus beau des liens entre eux. Sixième point, un vêtement n'étouffe pas celui qui le porte. Quand tu choisis un vêtement, c'est en été. On va pas mettre une doudoune ou les trucs en duvet d'oie qui t'empêchent de respirer. On choisit un vêtement qui est adapté au climat et qui sied à celui qui le porte et lui apporte un certain confort. Et là c'est un peu plus technique. Par analogie, certains contemporains disent que pareil pour le mariage, il faut faire en sorte de ne pas étouffer son prochain. Il ne faut pas qu'entre l'homme et la femme, il y ait d'attitude autoritaire. On doit laisser chaque individu, sachant que toi tu viens de la famille Omarji, elle vient de la famille Hakoun. Même si vous êtes de la Réunion, même si vous êtes du même gang, et ainsi de suite. Mais vous savez, d'un coin de rue à l'autre, d'un étage à l'autre, ce sont parfois des éducations différentes. Il y a des gens qui disent, mon tonton de Saint-André, dit Saint-André, nous tout est pareil. Non, même si c'est des petites villes, chaque famille, parfois entre deux frères, ils ont une vision de l'éducation qui est différente. Et lorsqu'il y a l'union, on se rend compte qu'il y a des décalages dans la conception des choses, dans la vision de la vie. L'erreur, ce serait d'aliéner l'autre, de frustrer la personne et que le mari s'impose. Voilà ma vision des choses. Aucunement, le prophète n'agissait pas de cette façon. C'est là qu'on a besoin de fusionner encore les esprits, de prendre le meilleur qu'il y a dans la famille Hakoun et le meilleur qu'il y a dans la famille Omarji, les meilleures qualités que vos parents vous ont inculquées, fusionner ces qualités pour que de ce foyer brille de mille feux les sifats que vos parents vous ont accordés. Et cela va se concrétiser, se manifester lorsque vous aurez des enfants. Et grâce à ces qualités fusionnées, ils auront le meilleur de tarbiya, de l'éducation des deux familles. Ça, c'est toute la beauté du mariage. Septième point, on choisit un vêtement car il nous plaît. Et quand un vêtement te plaît, quand tu as acheté une chemise qui coûte 200 euros, tu fais en sorte de prendre soin, d'accord ? Par analogie, les savants disent que dans le mariage, il est important de prendre soin de soi. La beauté qui t'a plu chez cette femme, tu aimerais que cette beauté perdure. Et la beauté qui a plu à ton épouse, elle aimerait que tu restes beau. Se faire beau pour son épouse et que l'épouse se fasse belle pour le mari, c'est un point essentiel. La deuxième phrase, on comprend. La femme doit toujours être belle à la maison, c'est quelque chose d'intégré. Mais l'autre sens, malheureusement, avec notre comportement un peu machiste, on a du mal à intégrer le fait que l'homme se doit de faire des efforts dans sa façon de s'habiller à la maison, pas uniquement à l'extérieur. Et là, il y a plein de dalil. On citera un hadith, une citation d'Ibn Abbas. Je me prépare, je me pare pour mon épouse et pour moi c'est important, tout comme il est important pour moi qu'elle se prépare et qu'elle se pare pour moi. C'est une relation mutuelle, c'est le respect pour l'autre qu'elle aussi elle nous perçoit dans les plus belles apparences. Ce serait injuste que pour la demande en mariage, tu mets ton joli costume et après pour les autres jours, un vieux t-shirt, un caleçon à la maison, c'est pas très séduisant. Avant dernier point, on n'a pas été long. Avant-dernier point, un vêtement te protège contre la chaleur de l'été, contre le froid de l'hiver et contre toute agression extérieure. On est d'accord? Quand tu mets une veste, c'est pour te protéger de toute agression extérieure en termes de décalage de climat. Et bien, à travers les liens du mariage, il doit y avoir une protection mutuelle. L'homme protège sa femme et la femme protège l'homme. Si quelqu'un essaie de porter atteinte à l'intégrité de ton épouse Nasrin, on peut appeler Irshad avec Faisal, ben il rigole pas, hein. Mais par les paroles également, tu dois être capable de prendre la défense. Un homme protège l'intégrité de son épouse et vice versa. Protéger contre quoi? Contre les agressions extérieures, comme l'exemple qu'on vient de citer. Mais également, créer un cocon, une protection pour que, au sein de cette maison, de ce foyer, vous vous sentez bien. Et protéger de toute agression extérieure. Protéger sa femme contre soi également, contre sa propre personne. Il y a des fois, on retourne une journée de travail, on est épuisé, on est sur les nerfs. Ce serait injuste que pour un manquement de l'épouse, ben, tous les problèmes qu'il y a eu avec le fournisseur, avec le client, avec la marchandise qui n'était pas livrée à temps, avec le PV qu'on a eu parce que le bouc n'a pas vu le parc, ben, c'est-à-dire toutes les frustrations de la journée, on va lâcher ça sur madame. Ça, c'est injuste. Quand on sent que, comme on dit, ça va péter et que on a atteint la limite, vaut mieux partir. Va faire un tour. Eh bon, mais le chef fait ce qu'on veut, fait un tour, laisse cette colère s'extérioriser, laisse la tension baisser, mais ne jamais exprimer sa colère au sein de ton foyer parce que ce serait la plus grande des injustices. Ce serait porter atteinte à celle qui est innocente dans toute cette histoire de cette journée et celle qui s'occupe du foyer pour que lorsque tu rentres, tout soit convenable. Et dernier point, le vêtement s'adapte au corps, si on peut se permettre encore une précision à ce propos. Protéger sa femme, protéger sa famille, c'est faire en sorte de ne pas s'exposer au mauvais regard. Nous sommes à une époque très complexe, où les gens, j'essaie de trouver les termes, par rapport au manquement de la foi, ils n'ont plus confiance en Allah. Et du coup, si quelqu'un, il gagne bien sa vie, où il a des bienfaits, qu'est-ce qui se passe? On est immédiatement jaloux. Et le regard de la personne jalouse, c'est ce qu'on appelle en arabe « ayn ». Ici, on l'appelle « nazav ». Le nazav, d'accord? Mais le « ayn », il est néfaste, le mauvais regard. Et les savants disent, on lit les doigts de protection, les quatre coules, sans le moindre doute. Mais une des façons de se protéger du mauvais regard, du regard envieux, ben c'est de ne pas trop exposer tout ce que tu as. Mon avis, et je le dis à tous les jeunes couples avec beaucoup de muhabba, je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'exposer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ainsi de suite, la vie de couple, le mariage, le quand on coupe le gâteau. Parce que exposer son bonheur de cette façon, c'est s'attirer la jalousie et, comme on dit, en créant le ras-le-cœur, le mauvais regard des personnes. Donc se protéger, lier les doigts, mais essayer de vivre un peu dans la discrétion. Parce qu'on vit une époque très compliquée. Vaut mieux être discret et vivre heureux que d'avoir une vie ostentatoire et avoir plein de problèmes, toujours avoir des tensions au sein du couple. Et notre dernier point, le vêtement s'adapte au corps. De la même façon, tu dois t'adapter avec ton épouse, accepter que parfois il y a des décalages dans l'humeur. L'épouse ne peut pas être au top tout le temps. Tout comme nous, on ne peut pas être au top à chaque fois, mais être capable de faire le mot le plus important, de faire concession. Il y a des fois, on doit être capable de s'écraser. Elle a de mauvais poils, mauvaise humeur, ben, tu sais pertinemment que si tu réponds, on va aggraver la situation. Donc, à un moment donné, on doit être capable de fermer sa bouche. Laisser le cyclone passer, quand tu vois que c'est l'œil du cyclone et qu'il y a une petite accalmie, là on peut amener quelques paroles pour résoudre le problème. Ne jamais aller dans la confrontation, même si on doit prendre sur nous-mêmes. Ce sont des règles d'or, des règles en or, des règles vraiment basiques pour apporter un certain équilibre dans le couple. Et la plus belle preuve, on conclut, de cet amour, voyez Khadija radiallahu anha, lorsqu'il y a eu l'embargo des Banu Hashim, elle faisait pas partie des Banu Hashim, elle a tenu à suivre son mari Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cet embargo. Et elle est décédée après l'embargo. Certains savants disent que c'est parce que durant l'embargo, il n'y avait rien à manger, il n'y avait plus d'eau potable. Et donc, elle aurait souffert de ses manquements, elle serait tombée gravement malade. Et les savants disent, voyez, l'amour qu'elle avait pour son mari, même si elle n'était pas concernée par ce décret, elle n'imaginait pas une seconde s'éloigner de son mari. Ça, c'est vraiment muhabba. Autre concrétisation de ce muhabba, c'est la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des années et des années après le décès de Khadija radiallahu anha. Aïcha décrit que tellement le prophète aimait son épouse, qui pourtant était décédée depuis des années. Quand il coupait un animal, un mouton, il prenait un peu de viande, les meilleurs morceaux, il l'envoyait pour les proches et pour les amis de Khadija radiallahu anha. Et une fois, Aïcha elle a utilisé un terme qui a un peu, on va dire, attristé le prophète. Elle dit, pourquoi il parle tant d'une vieille femme Quraysh, de Quraysh? Et le prophète était un peu attristé, il a dit, oh Aïcha, sache qu'elle fut l'épouse qui a cru en moi quand d'autres m'ont rejeté. Quand les gens m'accusaient de mentir, elle a affirmé ma sincérité. Quand j'ai été abandonné, elle a dépensé sa richesse pour soulager le poids de ma douleur. C'est comme ça qu'on construit véritable muhabba et mawadda. Et on conclut avec cette citation du prophète sur le hadith, la meilleure des femmes au monde a été Marie, Maryam alayha salam, et la meilleure des femmes de ma umma, de ma communauté, c'était ma première épouse, Khadija radiallahu anha. Et comment le prophète est-il décédé? Il y a un savant qui écrit une parole magnifique, que le prophète, il ne mourut pas l'épée à la main en martyr. Il ne mourut pas en lisant le Coran, et Dieu seul sait que mourir en lisant le Coran est une belle mort, ni dans la prière de la nuit. Non, il mourut dans les bras de sa femme, tout un symbole, un honneur pour la femme musulmane, et un message auquel nous avons été très peu attentifs malheureusement. L'honneur de la femme, c'est que depuis le début de la révélation, Khadija était impliquée, radiallahu anha, et dans les derniers instants, Aïcha, radiallahu anha, était impliquée. Qu'Allah, azza wa jal, t'accorde à toi et à ta future épouse Nasrin beaucoup de muhabba, d'amour sincère entre vous, et que tu sois un vêtement pour elle et qu'elle soit libas lakum, un vêtement pour toi. Qu'Allah vous comble de ses ni'ma, de ses bienfaits, qu'Allah guide vos pas, accepte pour suivre ses ordres à chaque étape de cette nouvelle vie, et qu'Allah accorde la bénédiction pour chaque personne présente, pour les couples qui sont déjà formés, qu'Allah Azza wa Jal amène la tranquillité, la sakina, et nous protège de toute chose qui est mauvaise, et nos jeunes qui ont un projet de mariage, qu'Allah Azza wa Jal ouvre leur destin et leur accorde, l'épouse vertueuse, ma tawfiq illa billah, subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.